Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Luc, chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Voici la première lecture. La seconde, nous allons la faire dans un passage tout aussi connu, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, donc tournez quelques pages. Et nous allons coordonner ces deux passages, ces deux textes, pour nous amener à notre méditation, à notre réflexion de ce jour. Luc, chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le publicain, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous connaissez, naturellement que vous connaissez. Tout ça, il y a un parfum de scandale. Imaginez-vous la scène, et on va la mettre dans le détail, on va voir. Vous savez que tout ce qui est écrit est véritablement en harmonie et fait partie d'un tout, hein, dans les messages de la Bible, ce qui nous est présenté dans Luc comme dans d'autres livres. Il y a là, eh bien, des choses qui se coordonnent, qui s'accordent les unes aux autres. Et quand on a pris naturellement cette lecture dans Luc chapitre 7, eh bien il y a tout un contexte. Et je voudrais quand même, pour notre compréhension, eh bien rappeler un petit peu ce contexte, parce que pour comprendre les versets que nous avons lus en ce qui concerne là cette situation parfum de scandale, je l'ai appelé comme ça si vous voulez, il y a quand même ce qui est dit un peu plus tôt. Un peu plus tôt, Jésus va donner une parabole, sorte d'allégorie, pour montrer que, eh bien, les hommes ne sont pas enclins, finalement, à croire et à obéir à Dieu, quelle que soit la présentation de l'évangile. Que ce soit un évangile rigoureux, quelque part sentencieux, comme celui de Jean-Baptiste, ou que ce soit l'évangile de Jésus, bien que ce soit le même évangile, mais décliné sous différentes formes, où là nous nous apercevons que Jésus eh bien, est venu mangeant, buvant comme tout le monde, fréquentant des gens, eh bien voilà, pour qu'ils puissent entendre le message de l'évangile, le royaume de Dieu, être sauvé. Alors, quelle que soit la manière dont se déclinent les choses, les gens ne sont jamais contents. Voilà, pour dire que ça peut être ceci, ça peut être cela, et puis voilà, quelle que soit la présentation. Alors donc, la parabole qui précède, ce que nous avons lu, c'est tout simplement, eh bien, la rencontre d'un d'un fondamentaliste, on pourrait peut-être dire ça aujourd'hui, le pharisien. Cet homme qui va à un moment donné dire à Jésus, bien viens manger chez moi, on va passer un bon moment. Ça semble très sympathique, hein, naturellement. Alors la rencontre d'un fondamentaliste, le pharisien, et d'une femme de petite vertu, elle est appelée dans notre texte la pécheresse. Alors on veut bien voir ce que ça signifie naturellement. Et est confronté en quelque sorte le libéralisme de Jésus, qui va rentrer dans la maison du pharisien pour manger, pour manger et boire comme il se doit pour tout un chacun naturellement, et confronté naturellement et bien avec le rigorisme de Jean-Baptiste dont j'ai parlé tout à l'heure. On vous a chanté, on vous a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On vous a présenté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Vous lirez hein, chez vous, hein, c'est ce qui précède naturellement. Hein. Donc, on a cette compréhension de ce que nous allons débattre ce matin, et c'est une confrontation entre deux mondes, en quelque sorte. Et on a tous compris dans sa généralité ce que voulaient dire les premiers versets que nous avons lus il y a un instant, hein, cette histoire. Et le verset 36, eh bien, nous dit ceci, un pharisien prie à Jésus de manger chez lui. Très bien, c'est sympathique. C'est bien parce que il nous est dit que Jésus n'avait pas où reposer sa tête. Bien là, c'est un homme de la religion, c'est un homme, respectable, qui dit à Jésus, bien voilà, un homme riche probablement, qui lui dit, bien viens, et puis on va, voilà, je t'invite, ça me fait plaisir de t'inviter. Maintenant, la question est de savoir si Jésus a été invité dans la maison du pharisien pour l'honorer, ou tout simplement pour l'espionner. Parce qu'on connaît les pharisiens. Ils ont un sens très, dans un premier abord, très avenant, gentil, tout beau, c'est magnifique, etc., etc. Mais ils n'en passent pas moins à l'intérieur, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce prédicateur-là de Galilée qui est en train de bouleverser notre religion, qui est en train de bouleverser tout, etc., etc. D'ailleurs, de toute façon, ça va ressortir dans le texte, on ne le lira pas ce matin, mais une chose qui est certaine, c'est que on va bien comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, permettez-moi, avant d'aller un peu plus loin, de faire un abrégé de l'histoire en question. On va essayer de synthétiser les choses d'une manière assez rapide. Une femme de réputation douteuse, elle n'est pas invitée, mais elle vient quand même. On va voir pourquoi. Une réputation, on dirait aujourd'hui, sulfureuse, à tel point que il nous est dit qu'elle était connue dans la ville. Donc, si elle était connue, elle était connue pour quoi? Pour simplement être une femme? Une bonne épouse? Non. Elle était connue pour une femme légère. Et tout le monde devait savoir. Et c'était assez inédit et original. Eh bien, ce qui va se passer. Jésus est invité dans une maison honorable. On peut pas dire autre chose. Le monsieur, le maître de la maison, c'est monsieur le pharisien, probablement, qui va trois fois par jour au temple de Jérusalem, qui donne sa dîme de ceci et cela. Tout le monde, lorsqu'on le voit passer dans la rue, s'incline en disant bonjour monsieur le pharisien, etc. Enfin bon, on peut en rajouter autant qu'on veut. Hein. Donc, Jésus est invité dans cette maison honorable. Et ils prennent un repas comme il est de l'accoutumée dans ce temps-là. En Orient, peut-être encore aujourd'hui, un repas dans une cour qui est ouverte. C'est-à-dire que, eh bien là, il y a un repas qui est servi dans la cour intérieure de la maison. Et c'est vrai que les gens qui sont invités sont là, naturellement. Ceux qui passent dans la rue n'osent pas peut-être rentrer. Mais vous allez voir que là, il va se passer quelque chose. C'est qu'il va y avoir l'intrusion. On peut parler de ça. Hein. On peut parler comme ça. Hein, parce qu'il fallait quand même oser. Il y a l'intrusion à la fois autant inédite audacieuse de cette dame, de cette prostituée, qui va rentrer. Faut le faire, hein, parce que chez les pharisiens, chez les collets montés de la religion israélite, on ne se fréquente pas. Enfin, façon de parler, excusez-moi, mais bon, c'est souvent une belle hypocrisie, mais toujours est-il que normalement, il y a une séparation, et elle est bien visible, et on le montre qu'il y a une séparation. Vous avez vu tout à l'heure ce que nous avons entendu de la prière du pharisien dans le temple de Jérusalem. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme les gens qui sont voleurs. Les gens qui sont là, eh bien, à critiquer les autres, ceci et cela. Moi, je suis au-dessus de tout soupçon. Je suis bien. Parce que je suis pharisien. Tout simplement. Le rigorisme, hein, naturellement, apparaît. Et à un moment donné, le pharisien dans le temple dira, mais je ne suis pas comme eux. Vous avez vu celui qui est derrière moi, là? Parce que lui, le pharisien, il était vraiment prêt de devant, dans le temple, pour que Dieu le voit bien, parce que quoi, Dieu a une mauvaise vue, hein, ça peut arriver. Alors, donc, il se tourne, et il dit, ah, je ne suis pas comme, vous avez vu le gars qui est derrière moi? C'est vraiment un pauvre type, hein. Vraiment, il est connu lui aussi pour avoir fait la Numba, pour avoir fait la vie, etc., etc. Heureusement, merci Seigneur que je ne suis pas comme lui, hein. Et heureusement que t'as des gens comme moi, parce que dans le temple et dans la religion, bah, ça serait vraiment la débandade, hein. Pas mal, hein. Alors, ce sont deux mondes qui se font face. Oui, deux mondes. Le monde de la rue avec tout ce qu'il peut y avoir, et puis le monde du temple. Le monde de la synagogue, le monde des pharisiens qui se disent, eh bien, vraiment nous sommes de la race de Dieu parce que je me demande si quelque part Dieu pourrait faire quelque chose si on n'était pas là. Ah oui. Enfin, bon, c'est une réflexion. Dans cette présentation, donc Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table tout simplement. Et au verset 37, il nous est dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, et là, c'est là où l'histoire commence, elle tient dans sa main un vase d'albâtre. Tiens. Il y a naturellement le vase qui représente une valeur, et je voudrais quand même vous rappeler peut-être les uns et les autres que l'albâtre, vous savez ce que c'est que l'albâtre, hein? Ça dégage un bel aspect, comment pourrait-on dire, poli, hein, c'est une forme de blanc laiteux, ou alors ça peut être tacheté, ça peut être veiné, strié, enfin bon voilà, hein, ce sont des beaux vases, hein, c'est plus la mode en ce moment l'albâtre, hein, mais il fut un temps où, on a l'albâtre, quand vous alliez en vacances en Espagne, il y a une quarantaine d'années, on venait tous avec un vase en albâtre, hein, sans le parfum, mais bon, toujours est-il, enfin je parle pour nous, hein, enfin je parle pour moi, parce que c'est ce que j'avais offert à ma femme, voilà. Mais bon, pas ce parfum parce que ça coûte trop cher. Mais bon, vase d'albâtre, elle vient, elle rentre, et il y a le contenu qui est encore plus cher que le vase. Si ça peut vous donner des idées, messieurs, pour la fête des mères, allez-y, venez me voir. Hein. Donc, le contenu, il était plein de parfums, un beau vase, magnifique, et il était plein de parfums. C'est Jean qui nous dit ça dans un autre texte qui n'a rien à voir avec celui-ci. Mais en tous les cas, en ce qui concerne l'évaluation de la valeur et des quantités et de la qualité, dans Jean, il nous est dit qu'une autre femme, elle s'appelait Marie, rien à voir avec cette femme, dont elle est anonyme, hein, d'ailleurs celle-ci. Hein. Il nous est dit qu'elle est venue, cette autre femme, avec un vase d'albâtre également, où il y avait 327 grammes de parfum. Imaginez-vous, c'était quelque chose qui représentait, hein. Et ça représentait à la fois la qualité, parce que il nous est dit que c'était un art pur. Un art pur. Art, vous avez compris, un art, hein, pas un art, voilà. Enfin bon, vous me suivez quand même. Hein. Et l'estimation, c'était un véritable trésor. C'est-à-dire que le parfum dans le vase valait à peu près une année de salaire pour un ouvrier en Israël. Vous vous rendez compte? Ça représente un an de salaire. Hein. Eh oui, ça représentait quand même beaucoup de choses. Vous savez que le nard pur de grand prix, alors je vais faire un peu de botanique ce matin, parce que moi j'aime bien chercher, et puis c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Ça fait partie de l'espèce des Valeria nacées, madame. C'est une racine. C'est une plante qui pousse à peu près entre 3000 et 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. D'accord, hein. Il a la faculté, la propriété d'être un produit sédatif, astringent si vous voulez, et il procure la sérénité. Voilà, hein, c'est ce que nous dit le dictionnaire. Et le nard de Grand Prix, ça fait partie des 7 parfums dans la Bible. C'est ce que nous trouvons. Et le parfum est un parfum boisé, épicé, musqué, on peut dire ça comme ça. Hein. Vous voulez connaître le nom botanique? Alors, je vais vous le dire, hein. Nardostachy jatamansi. Vous en souviendrez? Bon, vous me le copierez 100 fois pour que vous puissiez l'intégrer. D'accord? Non, mais c'est pour vous. C'est authentique ce que je dis, hein. Ah, il faut me croire, hein, parce que là, attention, hein. Bon. On va un peu plus loin. Nous voyons que cette femme, qui n'est pas invitée dans cette maison, dans la plus grande discrétion, va rentrer dans cette cour où il y a le repas. Il devait peut-être y avoir, je ne sais pas moi, plusieurs invités, peut-être Jésus, outre peut-être les disciples, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle va rentrer d'une manière très discrète et elle va se tenir au pied de Jésus. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y avait là certainement une petite table basse, avec tous les ingrédients, tous les produits, et que, à la manière romaine, eh bien, il y avait des coussins, où il y avait des petits divans et tout ça, et ils étaient allongés, l'invité ou les convives étaient invités, face à la petite table, et ils avaient les pieds derrière, vous comprenez ? Hein ? Voilà, pas les pieds devant, mais les pieds derrière, c'est mieux. Alors, donc, elle est rentrée, tout le monde se faisait face, il y avait que ceux qui étaient en face de Jésus qui pouvaient voir qu'il y avait quand même quelqu'un qui rentrait, hein. Mais Jésus ne pouvait pas le savoir dans un premier temps, naturellement. Alors, elle s'est tenue derrière les pieds de Jésus, et il y a un fait qui est souligné dans notre passage, elle pleurait. Ouah ! Elle pleurait. Imaginez-vous, elle rentre, elle vient avec son vase, il y a un parfum de nard de grand prix, et là, elle est inondée de larmes, elle est inondée, finalement, de chagrin. Elle est envahie par ce chagrin. Et la raison, on va la voir tout de suite, parce que il y a toute une leçon d'importance spirituelle, il faut le dire. Elle ressent, parce qu'elle pleure, elle est aux prises avec une grande émotion sincère et profonde, une véritable douleur qu'elle épanche, non pas par des mots, parce qu'elle ne dira rien. Elle ne dira rien, pas un mot. Mais elle va manifester sa douleur par un geste. Par un geste, des gestes qui sont pleins de sens. Et nous allons voir l'explication de ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, dans quel but elle le fait. Le verset 38 nous dit, « Elle se tint derrière, nous l'avons dit, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. » Imaginez-vous la scène, dans cette maison, en face et devant, eh bien là, une compagnie, devant des assistants qui, quelque part, bon, ont invité et reçoivent Jésus, peut-être du bout des lèvres, mais quand ils vont s'apercevoir de quelle espèce, de quelle nature, de quel genre est cette femme, alors là, il y a de quoi hurler. Je vous dis, un parfum de scandale, hein, parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient peut-être un petit peu plus, ça serait certainement différente. Mais à l'époque, c'est véritablement une révolution. On le sait par d'autres textes que de telles femmes. Eh bien, on les mettait sur la place publique et vous savez ce qui s'est passé à un moment donné. Heureusement que Jésus est venu et leur a dit, eh bien, que le premier qui est sans péché lui jette la pierre. Bon, on connaît l'histoire. Et on ne faisait pas de cadeaux, hein. Ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours des femmes adultères, jamais des hommes adultères. C'est bizarre, hein ? Ah, c'est vrai dans la Bible ? Non, je parle dans la Bible. C'est vrai, c'est curieux, ça. Hein ? Ah, mais voilà, monsieur est au-dessus de tout soupçon. C'est vrai que c'est terrible, hein ? À l'heure où nous sommes dans la parité aujourd'hui, il y avait du travail à faire à l'époque, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, une attitude osée, parce que c'est quand même... Il faut le faire, hein. Voire même scandaleuse que cette femme rentre dans cette maison-là et fasse ce qu'elle fait. C'est-à-dire, une façon, c'est provocateur, devant une bonne moralité des autres. Et quelquefois, vous savez, les seigneurs nous confrontent avec des situations où nous avons tôt fait à donner des conclusions sur les apparences. Sur les apparences. Mais retenez bien qu'elle pleurait, hein. Et il y avait une raison. On va le voir. Et elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Alors, ses larmes et le parfum mélangés ensemble. Les larmes et le parfum mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Et elle va agiter sa chevelure. Et une femme qui se dénouait les cheveux, c'était vraiment la prostituée. Et puis, c'est de l'indécence. Et ensuite, elle embrasse les pieds de Jésus. Vous vous rendez compte? Et elle va les oindre du parfum. C'est une inconvenance totale. Dans le lieu, là, devant ces gens. Et vous avez remarqué, Jésus ne dit rien et il laisse faire. Il aurait pu peut-être... se secouer en disant « Mais hé, t'as vu où je suis là? Je suis invité, toi tu ne l'es pas. Et puis qu'est-ce que tu es en train de me faire sur les pieds là? Hein, qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être qu'à notre époque, un bon chrétien, un brave chrétien, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette affaire? Se laisser toucher par cette espèce de d'individu. Voilà, tout simplement. Jésus laisse faire. Alors, pourquoi Jésus laisse-t-il cette femme faire ce qu'elle fait? Parce que c'est le summum de ce qui peut être scandaleux, hein, naturellement. Pourtant, Jésus voit ce que les autres ne voient pas. Jésus comprend ce que les autres ne comprennent pas. Ils sont ahuris. Comment? Lui, qui se dit le prophète, qui se dit le Messie, puisse tolérer une telle chose. Jésus voit, il comprend la nature, il comprend les raisons, et il comprend les buts et le sens de ce que les autres invités jugent comme un pur scandale. C'est tout. Jésus sait tout cela. Et c'est pourquoi son attitude est celle qui nous est présentée. Oui, le but, les raisons. Vous savez que Jésus nous dit juger selon la vérité et non pas selon les apparences. Et je pense que ça peut être un rappel pédagogique pour chacun d'entre nous, parce que nous pouvons, et nous avons eu dans nos réunions, des gens qui venaient et qui remontaient de bien bas. Ouais, on a connu. Hommes et femmes. On a connu des gens qui, à la réputation sulfureuse et décriée. Et je pourrais vous dire que dans nos églises, il y a eu ce genre de personnages qui sont venus en pleurant écouter l'évangile, qui se sont convertis et dont la vie a été complètement et transformée totalement. Merci Seigneur. Ah oui. Ah mais je dirais qu'il y a plus de monde de cette catégorie-là, de ce monde-là, que peut-être des pharisiens et puis des gens qui ont eu une éducation, qui n'ont fait ni bien, enfin ni bien ni mal, mais enfin bon, qui aiment bien dire qu'ils sont des braves gens, etc., etc. Parce que ces gens-là, ils ne se convertissent pas. Ils n'ont pas besoin de Jésus puisqu'ils sont déjà purs. Ils sont déjà saints. Ils sont déjà parce qu'ils ont leur religion, parce qu'ils ont leur morale, parce qu'ils sont respectables, parce que on baisse le chapeau bien bas lorsqu'ils passent dans une rue en disant Monsieur. Je suis en train de m'embarquer dans une affaire là, qui risque de me coûter cher. Oui, Jésus voit ce que nous ne voyons pas. Et il sait tout cela. Quelquefois, même entre frères et sœurs, on a des jugements qui sont arbitraires. Sur un point ou sur un autre, pas forcément dans le même sens, parce que quand on est chrétien, on est chrétien, il y a eu un changement de vie. Mais vous savez, il y a des attitudes, il y a des réactions. Il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Si on savait pourquoi parfois des frères et des sœurs pleurent, ben on serait peut-être un peu moins rigoureux avec eux, compte tenu de leur histoire, de leur passé, des enfances qui ont été piétinées, qui ont été désavouées, même dans l'existence de leur propre famille, qui quelquefois ont été négligées, qui quelquefois ont été violentées, si ce n'est pas le viol directement, et puis toutes sortes de choses. Alors il est comme ça, il est comme ça. Il est converti, mais il est encore comme ça. Ben oui, mais il faut du temps pour changer, vous comprenez? Et c'est pas à nous de changer la nature de nos frères et nos sœurs, c'est le Saint-Esprit. Et surtout que quelquefois, on les voit pas pleurer dans leur maison, hein. On ne sait pas ça. Soyons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, et l'a été avec nous, mes frères et sœurs. Ça s'appelle la grâce. Ah oui, quelquefois... Bon, on est un petit peu plus exposé que vous, parce que nous écoutons des confidences. Il y a parfois des confessions où les gens viennent nous dire « Mais vous savez, j'ai vécu ceci et cela. J'ai du mal à m'en tirer de tout ça. J'ai du mal à surmonter. J'ai besoin de... » Laissons le temps au temps et laissons Dieu faire son œuvre de guérison parce que nous ne sommes ni médecins, ni encore spécialistes en médecine. Ah non. Dieu est patient. Dieu est bon. Et vous savez, Jésus n'a rien dit pour cette femme. Parce qu'il y avait un plan et un but, on en verra la conclusion tout à l'heure, d'ici quelques instants. Jésus, en effet, voit la chose, voit cette attitude, voit cette femme autrement. Il perçoit, en tous les cas il en est sûr, puisque les choses sont ainsi, il perçoit que lui, Jésus, le Messie, pas pour tout le monde, le grand prédicateur d'Israël qui apparaît, le serviteur de l'Éternel, si on prend les termes de l'Ancien Testament, Jésus voit qu'il est l'objet de la vénération, voire eh bien, de l'adoration de cette femme malheureuse. Ouais. Cette femme est comme magnétisée. Vous savez, le magnétisme, hein, il y a rien d'occulte là-dedans. Elle vient, elle voit, elle entend que Jésus est dans cette maison, et c'est irrésistible pour elle. Elle va rentrer, elle va franchir tous les interdits. Elle va rentrer dans cette maison, qui est certainement pour elle une maison où on la met dehors avec un coup de balai, hein, on veut pas la voir, hein, elle est impure. Eh bien, Jésus, lui, sait que elle va passer cette frontière. Elle va aller jusqu'à Jésus. Elle va faire ce qu'elle va faire à Jésus. Et Jésus sait la motivation. Et nous, on ne connaît pas les motivations des gens, des frères, des sœurs. On ne les connaît pas. Quelquefois, au lieu de dire les choses avec notre savoir et notre connaissance en disant « tu devrais faire ceci ben », moi, je pense qu'il faudrait mieux dire « Seigneur, je me mets devant toi, je dis rien à mon frère et à ma sœur, mais moi, Seigneur, je te demande de le lui dire. » Et il saura mieux le dire que nous. Et il n'y aura pas de problème, parce que le Seigneur sait comment faire, en raison de ce qu'il sait, notre passé, et puis nos difficultés d'aujourd'hui. Donc cette femme, elle pleurait. Et elle pleurait d'une certaine tristesse, et on va la voir, la nature de cette tristesse. Mais elle pleurait aussi d'adoration. Ça, c'est formidable. Ça nous est arrivé quelquefois d'être saisi par le Saint-Esprit, emporté dans l'adoration de l'Esprit, et de pleurer. Ah, oh, ça, c'est quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Oh, c'est pas tous les jours, hein. C'est vrai. C'est juste regrettable. Mais je veux dire que quelquefois, dans des moments où vraiment notre vie est menacée, ou dans les moments ultimes où nous échappons à un danger, à des choses qui sont très difficiles dans notre vie, alors que tout est autour de nous finalement en train de s'écrouler ou de se ruiner, à un moment donné, nous sommes saisis. C'est quelque part complètement contraire à la situation à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a comme une joie où Dieu nous dit, mais ne t'en fais pas, je suis là près de toi et tu vas t'en sortir. C'est beau, hein? Ah, mais c'est du vécu, hein? Ah là 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 là! C'est formidable. Seigneur, donne-moi toujours de plus en plus d'épreuves pour que je connaisse cette joie et ce bonheur. Il n'y en a pas beaucoup qui prient comme ça, hein? Eh oui. Cette vénération et cette adoration de Jésus traduit sa réelle et profonde, écoutez bien le mot, sa réelle et profonde repentance. Repentance. Elle avait de quoi se repentir avec la vie qu'elle avait eue? Est-ce qu'elle avait choisi sa vie? Peut-être qu'on l'avait mis sur le trottoir pour... C'est peut-être pas elle qui avait choisi. Une fois que vous êtes dedans, vous en sortez plus, hein. C'est terrible, ça, hein. C'est terrible. Il y a beaucoup de jeunes femmes innocentes qui se sont trouvées dans des situations pas possibles, qui n'ont pas choisi elles-mêmes et dont la vie a été brisée. C'est terrible. Hein. Quel monde cruel, quel monde impitoyable, hein, de briser, de piétiner des vies et tout ça. Peu importe la réputation des gens, c'est comme ça et c'est tout. Elle souffrait finalement parce qu'elle était en train de se repentir de ses péchés. Je pense qu'elle ne devait pas être toute seule, finalement, être coupable dans cette situation. Ça, certainement pas. Et le parfum qui est répandu à ce moment-là, eh bien, c'est son cœur. C'est sa conscience morale. Sa conscience morale qui est épuisée de son état honteux. Comme Paul le dira, mais avant de nous convertir, avant d'avoir découvert Jésus, nous avions honte de ce que nous avions fait. C'est dans Romains, vous connaissez? Oui. Et elle, c'est certainement ce qu'elle éprouvait. Elle avait une honte d'un seul coup. Comme Pierre dans la barque. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il y a des prises de position qui sont permises par le Seigneur. C'est pas nous qui les décrétons. C'est le Seigneur qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et là, on tombe sur nos genoux et on pleure en disant, Seigneur, je veux changer de vie. C'est ça l'évangile pour demain. L'évangile pour aujourd'hui. Mais l'évangile pour demain. Que nous devons encore continuer à prêcher, mes frères et sœurs. Parce que s'il n'y a plus ça, je peux vous dire que le centre évangélique et tout ce qu'il contient, ça sera que de la moralité. Hein. On n'est pas des moralistes. C'est une vie puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, c'est sa conscience qui est épuisée. C'est sa volonté à fuir. Et toute la scène pivote autour, et c'est le symbole qui nous est donné, contre l'apparent gâchis d'un si grand et si beau parfum. Parce qu'elle a vidé complètement tout, hein. Elle aurait pu en mettre, tiens, Jésus, je te donne 2 gouttes. Elle a versé sur les pieds de Jésus, complètement. Et ça paraît, et on le verra peut-être une autre fois dans le cas de Marie pour d'autres situations, que ça apparaît un gâchis, vous vous rendez compte? 1 an de salaire pour un ouvrier? En tous les cas, la maison de Simon le pharisien va être embaumée pendant plusieurs jours, hein. Parce que Jésus va pas tout emmener, hein. Eh oui. Alors elle brise le vase. Une forme qui nous est donnée dans un autre texte. Elle casse le vase. Un si beau vase d'albâtre. Elle le casse, elle le brise. Comme on brise, et comme elle l'a fait pour elle-même certainement, les liens et les addictions du péché. Seigneur, comment puis-je m'en sortir? Comment j'ai encore des relents de mon ancienne vie? J'ai encore le vieil homme qui me taraude. Je connais le principe, l'homme nouveau, on est d'accord, la vie spirituelle, on est d'accord, mais ça me colle tellement à la peau ce que j'ai fait hier, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et tout ça, ça me colle encore à la peau. Mais comment? Alors, il y a ce mot « briser » qui nous montre que cette femme, eh bien, nous donne en quelque sorte le mode d'emploi, si on peut dire, cette addiction du péché dont on ne supporte plus le poids de la honte. Les gens s'en aperçoivent peut-être pas, mais moi je m'en aperçois à l'intérieur de moi-même. Je rougis de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu être, etc., etc. Alors elle répand tout ça devant le Seigneur. Vous savez, quand on répand notre cœur, nos prières, nos pleurs et toute notre misère devant Dieu, vous avez quelqu'un qui va vous écouter. Il va vous écouter, Jésus. On peut le dire devant des hommes, nous risquons d'être incompris et voire peut-être même au risque d'être jugés. Mais pour le Seigneur, pas de problème. Vous savez pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il est mort pour ça. Il a donné sa vie précisément pour ça. C'est toute la question. Il y a une belle parole que nous trouvons sous la plume de l'apôtre Paul. Ça se situe dans 2 Corinthiens, au chapitre 2. Et c'est évocateur, finalement, de ce que peut être l'homme, le travail du Saint-Esprit dans nos vies. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il est dit cette parole. Écoutez bien. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Ce matin, vous êtes en train de prendre un parfum qui est la connaissance de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu sur un texte précis. Oui. Un enseignement, je le crois, parce que nous l'avons demandé dans la prière cette semaine, inspiré par le Saint-Esprit. J'y suis pour rien, c'est le Seigneur qui est tout. D'accord? L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et puis, parfum de Christ pour ceux qui périssent aussi, hein, naturellement. Les uns, une odeur qui est celle du rejet, de la mort, etc. Mais, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et c'est ça l'évangile. À partir du moment où nous sommes confrontés avec la bonne nouvelle de l'évangile, eh bien, il y a quelque chose comme un renouveau à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun d'entre nous, nous fuyons les mauvaises odeurs, n'est-ce pas? Par contre, quand ça sent bon, les salles de bain, ouh là 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 là, hein, ou les lieux où, voilà, il y a du parfum qui exhale, sa senteur, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est important, me semble-t-il. Parfum de Christ, la bonne odeur du salut et du pardon de Dieu. Je fais remarquer tout à nouveau qu'elle a tout donné. Vidé, versé. Elle a tout livré, le parfum, finalement, qui était celui d'avant. Vous savez? Celui qu'elle avait conservé probablement chez elle, mais ce parfum de mort empoisonnée, enfermée dans sa conscience, une conscience tourmentée. Parce que son vase à elle, c'était sa conscience et son cœur et sa vie intérieure. Et il fallait que ça soit brisé tout ça, comprenez. Et l'ironie de la situation, si on peut dire les choses de cette manière, elle va le faire avec un admirable courage. C'est-à-dire, plus de masque, plus de dissimulation. Ce parfum qu'elle répand aux pieds de Jésus était peut-être le parfum dont elle se servait dans son métier, dans sa mauvaise vie, pour masquer finalement son état, eh bien là, misérable. Ouais. Les masques, les phares, et tout ce qu'il peut y avoir là pour essayer de cacher la réalité d'une vie mauvaise, d'un cœur mauvais, d'une situation que... Mais elle, elle le fait au grand jour maintenant, et devant ses ennemis en plus, sauf Jésus naturellement. Et elle a tout donné, non à moitié. Vous savez, moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à la pauvre veuve, vous savez, qui va dans le temple et qui va donner tout ce qu'elle a. Et Jésus dira que finalement, elle a donné eh bien, de son nécessaire, alors que tous les autres donnaient dans le tronc du temple de Jérusalem, de leur superflu. Elle a tout donné. Et quand on se donne complètement, totalement, mais le Seigneur va faire de grandes choses pour nous. Hein. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, nous dit le livre des Proverbes dans la Bible. Elle a tout donné. Qui est l'expression, tout simplement, de sa repentance absolue, le témoignage de sa foi dans la grâce du pardon. Croyez que Dieu vous a pardonné. Ça, c'est important. Il y a trop de frères et de sœurs qui reviennent toujours sur cette notion « Mais est-ce que Dieu m'a pardonné ? Est-ce que Dieu peut me pardonner ?» Mais il vous a donné la preuve en donnant Jésus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Croyez au pardon de Dieu, quand le pardon, quand la démarche est sincère. Hein. On parle de l'âme de crocodile. Les larmes de crocodile, moi quand je vois des émissions animalières, c'est simplement quand il sort de l'eau. Il dégouline. Mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tout ça, c'est pas de grande valeur, naturellement. Savoir briser le vase, c'est-à-dire notre vie intérieure, ne pas avoir peur. En face de Jésus, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas de tabou à dire à Jésus. Il n'y a pas de tabou. Hein. Et ça, c'était très courageux. Mais c'était risqué pour elle. En faisant ce qu'elle a fait devant des hommes qui l'a jugé. Et c'est peut-être là, justement, où est le problème. Quelquefois, on a plus peur des hommes que du Seigneur. C'est un peu dommage, parce que le Seigneur reste le Seigneur, et quand on sait qu'on peut tout lui dire et qu'il nous pardonne, avoir peur des hommes, ça, c'est pas très, ça va pas loin, hein, le jugement des hommes. Vous savez que dans le psaume 56, il est donné cette petite annotation qui est intéressante au chapitre 6, au chapitre, pardon, 56, donc c'est ce que j'ai dit, et au verset 9. C'est un psaume de David. Et écoutez bien, c'est une prière. David dira à Dieu, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Chaque fois que vous pleurez, le Seigneur le sait, quoi qu'il en soit. Et il dira, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur des hommes. Quelle que soit leur position. Il faut les respecter. C'est vrai, il faut respecter les hommes. Et il faut même les aimer. Mais n'ayez pas peur d'eux. Leur pouvoir peut être défait en un instant si vous priez, s'ils vous veulent du mal. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Cette femme est en train de remonter à la lumière, là. Hein? Mais, oui, les hommes, quelle confession, même quand la condamnation des autres est sans appel et sans miséricorde. Et monsieur le pharisien, monsieur Simon le pharisien, vous savez ce qu'il dit? Il nous est dit, et je reviens un petit peu en arrière, elle se tenait aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Maintenant, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, lui il n'a pas eu le courage de le dire tout haut, si cet homme en parlant de Jésus, Si cet homme était prophète, il serait qui et de quelle espèce? Et la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Et alors? Jésus est venu pour enlever les péchés du monde. Ah ben, ça tombait bien. Il saurait que c'est une pécheresse, lui, monsieur le pharisien, celui qui n'a ni tué ni volé, celui qui est au-dessus de tout soupçon, celui qui pense qu'il est le meilleur et que, quelque part, il est sans péché. Elle avait la conviction qu'elle était pécheresse. Lui, il s'était donné une bonne raison dans sa conscience qu'il était pur. Tout ça, c'est quand même bizarre. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Est-ce que vous avez peur de votre pasteur? Ah, question! Ben, profitez-en parce que ça va pas durer. Vous allez retrouver la paix. Ben, vous auriez tort d'avoir peur de moi. Vous auriez tort d'avoir peur d'un quelconque pasteur, même si quelquefois il a une apparence d'autorité, etc., etc. Mais non, c'est un homme comme les autres. Oh, je vais avoir des problèmes avec mes collègues. Hein. Non, on doit s'aimer les uns les autres, mais on n'a pas à avoir peur des hommes, parce que craindre les hommes, c'est manquer de foi en Dieu. Et c'est pas de la provocation pour autant, hein, naturellement. Oser sortir de l'ombre de son péché, cette femme, et de la transgression du bien pour aller à la pleine lumière, devant tous, surtout devant les sans reproche qui étaient là dans cette maison, et les au-dessus de tout soupçon, qui ont déjà saisi la pierre pour la lui jeter, pour la lapider. Hein. Elle a failli mourir, hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Alors moi je pense que on a évoqué ce matin, c'est le titre du message, le secret des mystérieux parfums des larmes. Oui. Le mystérieux ou les mystérieux parfums des larmes des hommes. Elle pleurait, nous est-il dit. Elle avait une réelle affliction de repentir. Et, contrairement à beaucoup d'hommes, lorsque nous nous mettons en règle avec le Seigneur ou que nous nous essayons de rattraper un peu les choses pour les bricoler à notre façon pour avoir une bonne conscience, beaucoup ont plus la peur des conséquences du péché que le péché lui-même. Conséquences. Oh, je vais être puni. Oh, Dieu va me juger. Oh, ceci et cela. Mais ça, c'est quoi? C'est la peur des conséquences. Mais il vaudrait mieux avoir peur du péché lui-même pour pas y toucher et pour en être délivré. Comme ça, vous n'aurez pas peur des conséquences puisqu'il n'y en aura pas. Ça, ce sont des attitudes humaines, hein, c'est psycho. Hein. La conclusion, je la trouve dans ce verset 47 de notre passage. Il est dit à un moment donné, c'est pourquoi Jésus parlera aux pharisiens. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés, les nombreux péchés de cette femme ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et voilà la conclusion. Nous avons ici la cause et la preuve du parfum du miracle. Parce que le miracle, c'est un cœur changé, c'est une vie qui va basculer, finalement, d'une habitude de vie, d'une pratique du péché, à véritablement une vie vertueuse, à une vie qui va devenir une vie, on peut dire, et on pourrait le dire peut-être avec les mots que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est notre dispensation, une vie chrétienne. Le vieil homme, parti. Enfin, il est toujours là, faut quand même se méfier. Il est toujours au coin du bois. Hein. Mais une vie nouvelle. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est plus grand que tout le reste de tous les miracles. Ouais, la cause et la preuve. La cause de ce que Jésus nous enseigne dans ce verset 47, la cause, c'est la foi de se savoir pardonner complètement. Vous avez demandé pardon à Dieu. Ne revenez pas en arrière et ne remettez pas tout ça sur la table. C'est fini. Vous avez demandé pardon à un frère? Alors, n'y retournez pas. Si vous lui avez demandé pardon, qu'il vous a pardonné, c'est pas la peine de remuer les choses d'hier. Hein. C'est pas la peine. Et c'est la démonstration de l'amour chez cette femme, de l'amour de cette femme pour celui qui lui a fait grâce et ne l'a pas ni rejeté ni condamné. Écoutez bien. Et il dit à la femme, après avoir dit ce que nous avons dit aux pharisiens, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ils sont pardonnés, c'est fini, on n'en parle plus. Quelle que soit a été la vie, l'intensité de la vie, de la mauvaise vie quelle que soit la quantité de tout ce que tu as pu faire avec différents hommes, etc., etc. Non, tes péchés sont pardonnés. C'est fini. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux. C'est toujours en lui-même ou entre eux, vous comprenez? Comprenez, ça papote. Hein. Ouais, c'est pas beau de papoter. Celui-ci, qui est celui-ci, en parlant de Jésus, qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui, dans le cas de la femme, écoutez bien, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il ne lui dit pas, va et ne pêche plus. Parce qu'il croit à la sincérité de la démarche de cette femme. Il croit à la sincérité de la démarche de cette femme. Ne jugeons pas de la sincérité, finalement, des uns et des autres. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur sincère. Le Seigneur le sait. Et je pense que derrière tout cela, eh bien, il y a un fameux message. Je termine. À qui ressemblons-nous? Oui, à qui ressemblons-nous? Simon le pharisien et tous ses amis dans sa maison, ses amis sans cœur. Où est-ce que nous ressemblons? À Jésus, parce que ces pleurs de cette femme exaltent le parfum du pardon et du salut. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, parce que c'est quelque chose qui est tellement nécessaire au milieu de nous dans l'Église. Ouais, c'est un très, très, très beau texte et j'ai voulu vous le partager parce que je pense que ce qui doit exhaler dans l'Église du Seigneur, c'est le parfum de son amour, c'est la joie d'être sauvé, d'être pardonné et de savoir que dans le ciel, il n'y aura plus toutes ces choses. Ce sera la perfection totale, complète et éternelle. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a de si beaux textes dans ta parole. Il y a de si belles histoires. En effet, Seigneur, nous sommes bien loin de la loi, de ses exigences, de ses marches forcées, de ses tourments de la conscience, de toutes ces choses, Seigneur, qui labourent les cœurs et les consciences et les vies. Parce que l'homme, véritablement, Seigneur, est bien un être qui est perdu, qui est corrompu, qui est pécheur. Mais Seigneur, loin de penser, Seigneur, que tout cela est un obstacle pour nous approcher de Dieu, c'est même un moyen, c'est même un tremplin. Et cette femme nous a montré qu'elle a franchi la barrière, qu'elle a franchi la frontière, et que si elle est rentrée dans cette maison ennemie, et qu'elle avait là un ami, c'est qu'elle croyait que Jésus était son ami pour la pardonner, pour changer sa vie, pour lui donner, Seigneur, véritablement, à cause de sa foi dans le pardon et à cause de la preuve de son amour pour Jésus, eh bien tout ce qu'elle était venue chercher. Et nous voulons te rendre grâce parce que ces paroles sont magnifiques. Va, ta foi t'a sauvé. Eh bien nous voulons te rendre grâce et te remercier dans le nom de Jésus. Tu nous bénis, Seigneur, ce matin. Tu nous donnes de comprendre par-delà les mots d'un homme dans cette prédication. Mais tu nous comprends, Seigneur, et tu nous renvoies à nous-mêmes, que nous pouvons toujours, toujours nous approcher de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, écrasés par une vie, une histoire. Venez à moi, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est ce que cette femme a trouvé. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.